Alors, on m'a été demandé, on m'a proposé de faire une intervention aujourd'hui pour présenter les résultats d'une étude qui avait été menée en 2008 par un consortium d'universités françaises et aussi quelques universités internationales. Cette étude qui avait pour objectif d'essayer de comprendre l'impact de l'éducation sur la cohésion sociale. Dans le cas de cette étude, on avait distingué une série de variables qu'on imaginait pouvant avoir impact sur les variables de la cohésion sociale. Parmi ces variables, on a également les variables qui étaient liées à la structure et au contenu pédagogique des différents systèmes éducatifs dans les pays de l'OCDE. Et parmi ces différentes variables, on a également distingué une variable liée à l'orientation professionnelle, à l'éducation à l'orientation professionnelle. Et pour répondre à la problématique de cette conférence, donc j'ai essayé de mettre en regard les données de cette étude liées à donc à l'éducation, à l'orientation professionnelle et avec les pratiques du redoublement. Avant de vous présenter en détail les résultats de cette réflexion, je voudrais tout d'abord mentionner qu'il est bien sûr difficile d'affirmer qu'il y ait un lien automatique entre les pratiques de l'éducation à l'orientation professionnelle et le niveau de redoublement, bien sûr, et que cette relation ne peut pas être causale non plus. C'est pas parce que on pratique des politiques actives dans le domaine de l'orientation, de l'éducation à l'orientation professionnelle, que ça va avoir un impact sur les pratiques de redoublement. Bien sûr, pas comme ça que ça fonctionne, mais néanmoins, si on considère que l'éducation à l'orientation professionnelle, c'est un enseignement qui permet à l'élève, dès le très jeune âge, de comprendre sa place dans la société, de bien comprendre ses différences par rapport aux autres élèves dans la classe, de prendre confiance en soi, cet enseignement peut constituer, à certains regards, une sorte d'alternative pour les pratiques de redoublement. Donc, c'est à partir des données collectées à travers les différentes sources bibliographiques et informations statistiques, telles que le CDE, l'EURIDIS, les différentes bases de données et textes réglementaires sur les systèmes éducatifs dans chacun des pays, que nous avons distingué plusieurs groupes de pays selon les caractéristiques de leur système d'orientation dans le cadre de l'éducation scolaire. Ainsi, les pays ont été regroupés en prenant en compte le nombre d'heures dédiées à l'orientation professionnelle dans les cycles 1 et 2 de l'enseignement secondaire, le caractère obligatoire ou non de cet enseignement, qu'il soit offert comme une matière séparée ou comme un enseignement transversal, intégré dans d'autres matières, ou également les caractéristiques du personnel en charge de cet enseignement qui ont été pris en compte. Il convient de préciser tout d'abord qu'il n'est pas toujours aisé d'obtenir les informations strictement comparables d'un pays à l'autre, que ceci est lié d'une part au caractère transversal de l'enseignement à l'orientation professionnelle, qui rend particulièrement difficile donc le chiffrage de volume des enseignements, et d'autre part la spécificité des structures éducatives dans chacun des pays, notamment c'est le cas dans les pays fédéraux, où le volume et la nature des enseignements peuvent varier d'une région à l'autre. Donc malgré ces différences méthodologiques qu'on voulait souligner, nous avons essayé de dégager quelques tendances générales qui permettent de percevoir les différences des approches en matière de l'enseignement à l'orientation professionnelle à travers les pays de l'OCDE. Mais dans tous les cas, à côté de la diversité des modèles et des réponses organisationnelles qu'on peut y trouver, un constat commun peut être dressé, c'est que l'éducation à l'orientation professionnelle occupe une place croissante dans les systèmes éducatifs et au sein des politiques économiques et sociales des pays. Donc, en fonction des critères qui viennent d'être mentionnés, nous avons distingué trois groupes de pays. Le premier groupe comprend les pays qui mettent un accent particulièrement important sur l'orientation professionnelle dans le cadre scolaire. L'enseignement à l'orientation professionnelle bénéficie d'un caractère obligatoire qui est stipulé dans les textes réglementaires sur le système éducatif et qui est introduit dans le curriculum dès le très jeune âge. ce sont les pays anglo-saxons et les pays scandinaves qui font partie de ce groupe, et c'est à la fois les pays qui ont aussi les niveaux de redoublement parmi les plus faibles. Donc, j'ai deux dispositifs qui correspondent à cette séquence-là, mais je ne vais pas rentrer trop en détail. Donc, dans ce groupe, on retrouve les pays scandinaves donc, qui ont un taux de redoublement inférieur à 5%. C'est aussi le cas du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande. Dans ces deux pays, le taux de redoublement varie de 5 à 10%. Et c'est aussi le cas de l'Australie et du Canada. Voilà, c'est ça. Donc, le groupe 2 comprend les pays qui pratiquent une sélection précoce dans leur système scolaire, ce qui conduit à des pratiques différenciées de l'enseignement de l'orientation professionnelle dès le premier cycle du secondaire. C'est le cas des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la République tchèque, la Hongrie, mais également quelques pays de l'Amérique latine tels que le Mexique, l'Argentine et le Chili. Le niveau de redoublement dans ces pays est variable, avec une tendance plutôt vers un niveau élevé. Dans les pays comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Chili ou la Suisse, il est supérieur à 20%, et au Mexique, en Autriche et en Hongrie, il est autour de la moyenne de l'OCDE, autour de 12%. Le groupe 3 comprend les pays qui ont fait le choix de ne pas intégrer l'orientation professionnelle dans le cadre scolaire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il est plutôt assuré dans le cadre des politiques de l'emploi. Et cette fonction donc est remplie par les services nationaux de l'emploi, et l'utilisation relève de l'initiative individuelle des élèves. C'est le cas des pays comme la Fédération de Russie, le Japon, mais aussi le Thaïlande et le Hong Kong. Dans ce groupe, on retrouve également les pays dans lesquels l'orientation professionnelle est proposée, mais son enseignement n'est pas systématiquement rendu obligatoire, et le taux d'accès des élèves reste quelquefois relativement limité. C'est le cas des pays comme l'Irlande, l'Écosse, la Pologne, la Slovaquie, l'Italie, le Portugal et également la Corée. Le taux de redoublement dans ces pays est également variable. Donc, dans le premier groupe, il est quasi inexistant, donc pour la Russie et le Japon, et il est également inférieur à 5% en Islande, en Slovaquie, en Corée. Il s'élève à 8% en Irlande, à 15% en Italie et à 35% au Portugal. Donc, comme je disais au début de ma présentation, il est difficile de dire qu'il y a un lien automatique entre les pratiques de redoublement et l'orientation professionnelle, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit qu'il existe un certain nombre de pays, c'est le cas des pays anglo-saxons et des pays scandinaves, qui combinent à la fois les politiques actives dans le domaine de l'éducation à l'orientation professionnelle et le taux de redoublement très faible. Mais ce qui est important aussi de préciser, c'est que si on considère l'éducation à l'orientation professionnelle comme une sorte, à certains regards, alternative à des pratiques de redoublement, ce qui est important, c'est pas bien évidemment l'existence de ce dispositif en tant que tel, c'est pas le nombre d'heures qui prime dans ce cas de figure. Ce qui est important, c'est comment cet enseignement est mis en place. Et donc, pour illustrer cela, j'ai choisi 3 pays. Je vais rentrer donc un petit peu en détail pour comprendre comment est organisé cet enseignement dans ces 3 pays. Donc, il s'agit de la province de Québec au Canada, qui nous propose un modèle de l'école orientante, donc école qui tient compte de la nécessité d'orienter l'élève dès le très jeune âge. Le deuxième cas, c'est le cas de l'Angleterre, où les réformes importantes ont été mises en place dans les années 90-2000 pour réformer ce secteur. Et enfin, le système suédois, qui nous propose un exemple d'un modèle décentralisé, mais avec des initiatives importantes de soutien au niveau national. Pour parler de l'école orientante au Québec, donc quelques caractéristiques de ce modèle seraient la, donc tout d'abord le fait que l'orientation professionnelle fait partie des 5 grands domaines d'apprentissage dans le cadre scolaire. L'objectif consiste à aider les élèves à définir leur identité à l'école primaire et à donner des conseils d'orientation professionnelle ensuite pendant l'école secondaire. On s'assure que les élèves comprennent l'utilité de leurs études en langue, en mathématiques et en sciences et la raison pour laquelle ils l'étudient. On pourrait également y noter que le nombre des spécialistes qualifiés de l'orientation est en augmentation. En outre, l'implication active de tous les acteurs est encouragée, d'abord en favorisant les discussions et la collaboration entre les enseignants et le personnel de l'orientation, puis en développant les partenariats avec les parents et la communauté. Et enfin, on pourrait noter que les écoles bénéficient d'une très grande souplesse pour déterminer ce qui est une école orientante, selon eux, et donc ont une marge de liberté assez importante à cet égard. En Angleterre, des réformes importantes ont été lancées pour réformer son secteur dans les années 90-2000, qui consistait en premier lieu en privatisation, une externalisation du service public d'orientation. Il s'agissait de mettre en concurrence les opérateurs locaux et signer des contrats moyen terme entre l'État et les opérateurs sélectionnés. Ainsi, au début des années 2000, 66 en anglais Career Services Companies ont été créés. En parallèle, c'est le cadre partenarial qui avait été renforcé. En 2001, un réseau national Connections a été créé qui s'appuyait dans ses actions sur des partenariats locaux avec les acteurs publics, associatifs et privés de l'orientation et d'insertion. En ce qui concerne le personnel qui est mobilisé, il s'agit d'une part des enseignants qui se spécialisent qui ont décidé de se spécialiser dans les services de l'éducation à l'orientation, les enseignants qu'on va donc nommer Career Education Teachers, et on fait appel également à l'intervention des spécialistes des organisations extérieures. De plus, une démarche qualité avait été instaurée. Guidance Council a mis en place une charte et des critères de qualité qui sont utilisés par la commission d'accréditation d'orientation pour accréditer les différents acteurs publics, privés qui avaient émergé à cette époque. Enfin, pour terminer avec le système suédois, c'est donc un système qui se caractérise par une forme de décentralisation élevée. On pourrait noter que les catégories et les effectifs des personnels chargés du soutien et de l'orientation ne font pas l'objet des réglementations centrales. C'est à chaque établissement qu'il appartient de recruter le personnel dont il a besoin. C'est aussi le fait que la responsabilité pour ce type d'enseignement est partagée entre différents acteurs du système, les enseignants, les conseillers d'orientation et les directeurs de l'établissement scolaire. De plus, on pourrait dire qu'il n'existe pas d'organe central qui serait chargé de coordonner ou de piloter l'ensemble des activités d'orientation. Ces responsabilités sont assurées au niveau local et régional par les collectivités territoriales. Et chaque collectivité planifie ses services d'orientation et de conseil conformément aux instructions officielles en matière d'affectation des crédits budgétaires et au curriculum scolaire. Mais ce modèle décentralisé ne suppose pas une absence totale de l'aide de la part de l'État pour ce type d'enseignement. On pourrait noter une initiative qui avait été lancée en 2006 et puis en 2007, un projet de recherche de grande envergure intitulé « Le choix de carrière et orientation professionnelle » avait été lancé, et ce projet avait pour objectif de mobiliser un réseau des chercheurs des universités suédoises pour concevoir un programme de formation à l'orientation professionnelle pour le personnel impliqué dans cet enseignement. Ce réseau avait pour but d'identifier les domaines de recherche urgents et d'engager des travaux de recherche sur le déroulement des carrières et de conseils aux choix professionnels. De plus, en 2007, le gouvernement a confié à l'Agence nationale suédoise pour l'amélioration scolaire la tâche de soutenir les municipalités dans leur activité de développement de la qualité en matière d'orientation professionnelle et pédagogique. Cette agence travaille depuis en collaboration avec les municipalités pilotes qui ont été sélectionnées pour servir d'exemple de bonne pratique pour l'ensemble des établissements du système. Donc, en guise de conclusion, on pourrait encore une fois redire que nos recherches ont permis de distinguer un certain groupe de pays qui pratiquent à la fois le redoublement faible et les politiques actives dans le domaine de l'orientation professionnelle. On remarque également que les politiques actives dans le domaine de l'orientation professionnelle dans ces pays se reposent sur plusieurs composantes. En premier lieu, c'est une plus grande liberté d'action et de prise de décision au niveau de chaque établissement. En deuxième lieu, le soutien des initiatives locales par des programmes de recherche et de soutien méthodologique au niveau national. Troisièmement, il paraît important de rapprocher l'établissement davantage avec le monde extérieur, donc les collectivités locales, les services d'emploi locaux et régionaux, le marché du travail, afin de rendre le conseil professionnel plus en adéquation avec le monde du travail en constante évolution. Et puis, quatrièmement, on pourrait noter que le métier et l'enseignement à l'orientation professionnelle évoluent et on a tendance aujourd'hui, on remarque une tendance assez nette du passage d'une forme classique de consultation individuelle, souvent pratiquée donc pour ce genre d'enseignement, à une approche dite progressive, donc qui consiste à intégrer cet enseignement dans le programme d'études avec les éléments d'initiation pratique au travail. Je vous remercie de votre attention.
Je vais rebondir sur ce que vous dites. En fait, il y a beaucoup d'économistes qui travaillent sur les sujets d'éducation. C'est un sujet très important. En économie, on n'étudie pas simplement la croissance économique. On fait beaucoup aussi d'évaluation des politiques publiques. Donc là, le sujet du redoublement, c'est évidemment un sujet qui est passionnant pour nous. Alors là, ce dont on souhaitait parler, donc c'est un travail qu'on a préparé avec Arthur Heim au CNESCO, c'est sur le redoublement des classes, notamment de 3e et de 2e, avec l'idée que ce sont deux classes un peu particulières, puisque dans les classes antérieures du collège, le redoublement, c'est souvent quelque chose qui est prescrit par l'équipe enseignante pour faire face à des difficultés scolaires où on pense que l'élève ne va pas être en mesure de suivre la classe suivante. Là, en 3e et en 2e, évidemment, il y a un enjeu différent, puisqu'il y a une question d'orientation qui se pose à la fin de l'année. Et donc, le redoublement peut être initié par les parents, enfin par les familles. Il peut être discuté entre les familles, l'équipe pédagogique. Et d'ailleurs, le décret qui vient de passer sur le redoublement précise bien que la 3e et la 2e sont des classes qui pourront être redoublées en cas de désaccord sur l'orientation dans la classe supérieure. Donc on s'est appuyé sur des données qui sont fournies par l'ADEP, la Direction statistique du ministère de l'Éducation nationale, où on suit une cohorte de 35 000 élèves qui rentrent en 6e en 2007. Donc c'est une cohorte assez récente, c'est-à-dire que ceux qui n'ont jamais redoublé depuis leur entrée dans le panel ont passé leur bac l'été dernier. Et on s'intéresse en particulier aux 30 000 élèves de ce panel qui arrivent à l'heure en classe de 3e, d'accord, donc sans avoir redoublé 6e, 5e et 4e. Alors, quelques chiffres de cadrage déjà sur le redoublement dans le système scolaire français. Donc, vous avez peut-être déjà vu ces graphiques. On voit, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a c'est un phénomène qui est en très nette baisse sur la dernière décennie. Les taux de redoublement ont été divisés par deux dans certaines classes, en particulier en seconde générale technologique, alors qu'il reste de très loin la classe la plus redoublée du système scolaire. On est maintenant à près de 10% de redoublement. On était à 20% il y a 10 ans. Alors, pourquoi la seconde générale et technologique ? D'abord parce que c'est une classe qui est beaucoup plus, enfin, où il y a un choc de difficultés, puisqu'en fait à la fin de la troisième, il y a beaucoup d'élèves en difficulté qui soit quittent le système scolaire, soit redoublent, soit s'orientent vers les voies professionnelles. Donc en seconde générale et technologique, on est entre les meilleurs élèves, et donc il y a des attentes supplémentaires de la part des enseignants. Et deuxième raison, c'est que à la fin de la seconde générale et technologique, évidemment, on doit faire un choix d'orientation qui est très important, puisque c'est celui qui va avoir une influence, enfin, qui va déterminer la filière dans laquelle on passe le baccalauréat. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour du redoublement de la seconde générale et technologique. Quand on regarde la classe de 3e, qui est la deuxième classe à laquelle on va s'intéresser, le redoublement est relativement faible, c'est-à-dire qu'on reste autour de... On était à 6% il y a 10 ans, on est à peu près à 3% maintenant. Alors uniquement parmi les élèves qui n'ont pas redoublé au collège. Donc le redoublement est relativement faible en troisième. Il faut quand même garder en tête que ce qui se passe en troisième aussi, c'est qu'il y a énormément d'élèves qui sortent du système scolaire. D'accord, on a un taux de sortie du système scolaire au moment de la troisième qui est de l'ordre de 15%. Donc c'est un moment charnière aussi très important. Alors malheureusement, les données sont un petit peu incomplètes sur les dernières années. Donc je vais vous parler plutôt du redoublement de la troisième. J'aborderai un petit peu le redoublement en fin de seconde générale et technologique. Malheureusement, on n'a pas assez de recul pour voir la suite des trajectoires pour ces élèves. Donc les questions qu'on s'est posées, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils ont demandé. Donc on a regardé leur venant orientation en fin de première, troisième. Et qu'est-ce qui s'est passé après le redoublement de la troisième ? Est-ce qu'ils sont allés en seconde ? Et s'ils sont allés en seconde, qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir comme classe de première ? Alors, l'orientation en fin de troisième. Donc là, ce que vous voyez sur ce tableau, on a croisé les vœux d'orientation qui étaient formulés par les familles, donc le premier vœu qu'ils ont donné en amont du conseil de classe du troisième trimestre, donc c'est la colonne de gauche, donc la seconde générale technologique, seconde professionnelle, CAP, le redoublement, puisqu'il y a des élèves qui demandent d'emblée le redoublement de la troisième, l'entrée dans la vie active, et malheureusement, donc les données sont incomplètes, il y a 11% d'élèves pour lesquels on ne connaît pas le vœu d'orientation en fin de troisième. Donc la part de chacun de ces vœux est donnée dans la dernière colonne, d'accord, donc ça veut dire qu'on a 61% d'élèves, par exemple, qui demandent une seconde générale et technologique. Et donc pour chacun de ces vœux, je vous ai mis dans chaque colonne l'orientation effective des élèves l'année suivante. Donc par exemple, parmi tous les élèves qui ont demandé une seconde générale technologique, 93% l'ont obtenue. Et on a un taux de redoublement pour ces élèves-là qui est de 3%. Alors, encore une fois, je rappelle que là, on ne parle que des élèves qui n'ont pas redoublé avant le collège. Donc, c'est-à-dire que si on regardait les chiffres pour l'ensemble des élèves de 3e, on aurait des choses un petit peu différentes. Donc, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a une assez forte adéquation entre les vœux et l'orientation effective. D'accord ? C'est-à-dire que ceux qui ont demandé une seconde générale technologique, en majorité l'ont obtenue. Même chose pour les secondes professionnelles, les CAP. Ça, c'est quand même aussi dû au fait qu'il y a une anticipation, qu'il y a une discussion en amont du conseil de classe entre les familles et les équipes pédagogiques. Et donc, on adapte aussi sa demande, évidemment, à ce qu'on pense qu'on va avoir. Une autre chose qui est intéressante sur ce graphique, c'est qu'on a quelques élèves, alors vous voyez c'est assez faible, qui demandent l'orientation directement dans la vie active, qui demandent l'entrée dans la vie active. Donc bon, c'est 0,5% d'élèves, mais ça fait un nombre important. Et on voit qu'en fait, il y en a quand même beaucoup qu'on arrive à garder une année de plus, au moins, pour aller faire un CAP en particulier. Vous en avez la moitié qui poursuivent malgré tout en CAP alors qu'ils ont demandé l'entrée dans la vie active. Et donc, on a 1% d'élèves qui demandent directement le redoublement et qui, pour la très grande majorité d'entre eux, va effectivement redoubler. Alors, qui sont ces élèves qui redoublent ? Alors, donc, d'abord, si je synthétise un petit peu autrement les chiffres que je viens de vous montrer, si vous voyez la dernière colonne, ça vous dit, par exemple, parmi les élèves qui redoublent la troisième, Combien avaient demandé une seconde générale et technologique? C'est 36%, c'est la colonne de droite. Donc vous avez 36% des élèves qui sont en redoublant de troisième qui demandaient une seconde générale et technologique. Vous en avez 21% qui demandaient une seconde professionnelle, 10% un CAP, 19% qui demandaient déjà le redoublement, et ensuite donc un petit peu de vie active et quelques données manquantes. Alors, ces élèves-là, c'est un petit peu difficile de les caractériser par rapport aux non-redoublants. Parce que finalement, ce qu'on observe, c'est que les élèves qui redoublent, on a très peu de caractéristiques personnelles qui les différencient vraiment du reste de la population. On s'attendrait par exemple peut-être à ce que la catégorie socio-professionnelle des parents ait une très forte influence. En réalité, les différences sont pas énormes. Si on compare les élèves qui redoublent aux élèves qui sont passés, donc à tous les élèves qui sont passés, donc on observe une différence, c'est-à-dire que par exemple il y a 13% d'élèves CSP+, c'est-à-dire donc d'élèves de familles aisées parmi les redoublants, alors qu'il y en a 20% dans la population de troisième, mais c'est sans compter, c'est-à-dire en prenant tous les élèves qui passent, d'accord. Donc c'est-à-dire que je suis pas en train de comparer des élèves qui ont redoublé et des élèves qui sont passés de justesse. Donc, c'est-à-dire qu'à note équivalente, on n'arrive pas trop à voir de caractéristiques familiales qui a vraiment une influence forte. C'est-à-dire, en général, a priori, la note, c'est vraiment ce qui va déterminer le redoublement. Et donc, notamment, quand on regarde les moyennes au brevet des collèges, par exemple, sur les trois épreuves finales, les élèves qui redoublent, ils sont autour de 7 sur 20 aux trois épreuves finales, donc en maths, en mathématiques, français, histoire, géographie, alors que ceux qui passent sont plutôt autour de 11 de moyenne. Donc on a 4 points de différence sur 20, c'est une différence qui est très importante. Un autre élément de diagnostic, c'est de regarder un petit peu la distribution géographique. Donc là-dessus, même chose, on ne trouve pas d'énormes disparités géographiques sur le redoublement de la troisième. C'est un phénomène qu'on voit un petit peu partout dans les mêmes proportions, ça varie assez peu autour de ce pourcentage moyen de 3%. Le phénomène qui varie beaucoup plus géographiquement, c'est l'abandon en fin de troisième. L'abandon en fin de troisième, il est par exemple beaucoup plus fréquent dans les départements ruraux. Alors, c'est-à-dire que dans les départements plus urbains, il y a beaucoup moins de chutes de sortie du système scolaire, probablement notamment parce qu'il y a une offre professionnelle qui est plus importante. Donc, alors, quand on regarde du coup maintenant ce que deviennent ces élèves après le redoublement, on voit qu'il y en a 40% qui parviennent à la classe de seconde générale et technologique, 35% qui vont en seconde professionnelle, 15% qui vont en CAP et 10% qui rentrent dans la vie active avec une partie très très faible qui redouble encore une deuxième fois la troisième. Ça arrive très peu souvent. Donc le taux d'accès à la seconde générale et technologique est bien sûr bien inférieur au taux d'accès des élèves avant un redoublement. Mais malgré tout, donc on voit par exemple que 2 élèves sur 3 qui avaient demandé une seconde générale technologique avant le redoublement l'obtiennent après le redoublement. Donc il y a quand même un certain nombre d'élèves qui arrivent à obtenir ce qu'ils avaient souhaité après le redoublement, et on a même des élèves qui avaient demandé une voie professionnelle ou un CAP et qui l'obtiennent après le redoublement. C'est un pourcentage qui n'est pas négligeable, on est entre 15 et 20%, sachant qu'il y en a aussi une bonne partie qui obtient effectivement la voie professionnelle quand ils l'ont demandé. Et une dernière chose que je voudrais noter, c'est qu'il y a malgré tout, après le redoublement, encore beaucoup d'élèves qui s'arrêtent là, qui redoublent la troisième et qui rentrent dans la vie active. Ça concerne 10% des élèves. Donc c'est des élèves qui, a priori, ont passé une année et qui n'ont pas obtenu de diplôme supplémentaire à l'issue de ce redoublement. Alors, une deuxième chose qu'on a fait sur les élèves de troisième, qui redoublent la troisième, on a regardé ceux qui sont allés en seconde générale et technologique pour voir si à la fin de cette année de seconde générale et technologique, ils s'orientaient de la même manière que les élèves qui sont arrivés à l'heure, donc notamment sur l'orientation en première. Alors, on le fait que sur les secondes générales et technologiques, simplement parce qu'on n'a pas réussi à avoir de données sur les voies professionnelles. Donc, je vous présente uniquement ça à ce stade. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour les élèves qui arrivent en seconde générale et technologique à l'heure, on a près des trois quarts, entre deux tiers et trois quarts des élèves qui continuent en première générale ou technologique. Donc une des trois voies S, ES et L de la voie générale, notamment la première S, c'est quasiment un tiers des élèves. et ensuite la première ES, la première L et les premières technologiques, en majorité les filières STG. Vous avez très peu de réorientation vers la voie professionnelle, ça concerne 2-3% des élèves, et il y a un taux de redoublement qui est de l'ordre de 9% pour ces élèves-là, donc 9% des élèves qui redoublent la seconde générale technologique. Alors, une petite précision, les chiffres que je vous montre ici, ce ne sont pas forcément les orientations effectives, mais simplement les décisions finales à l'issue du processus d'orientation en fin de seconde. Malheureusement, on ne les observe pas à la rentrée, donc on ne sait pas si c'est effectivement rentré dans ces filières. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peut-être parmi ces élèves-là des élèves qui, à qui on a dit vous êtes admis dans telle filière, qui n'en ont pas voulu et qui sont allés ailleurs. Donc, c'est des chiffres qu'il faut prendre un petit peu avec précaution. Donc, si je refais la même analyse pour les élèves qui sont en seconde générale technologique après avoir redoublé, on voit que la part d'élèves qui rentrent en voie générale, et notamment en première S, est très très inférieure. On est à environ 10% d'élèves qui rentrent en première S. On a une très forte orientation dans la voie technologique, on voit entre 30 et 40%. Le redoublement de la seconde générale technologique reste au même niveau que ceux qui n'ont pas redoublé la troisième. C'est-à-dire qu'on est toujours à 10% d'élèves qui, après avoir redoublé la troisième, redoublent en plus la seconde générale technologique. Donc ils prennent qui redoublent deux classes consécutives. Et dernière chose, on a une très forte réorientation vers les voies professionnelles, soit en CAP, soit en seconde professionnelle, donc redoublement de la seconde en voie professionnelle, soit en première professionnelle, c'est-à-dire qu'ils rentrent directement en deuxième année du cycle lycée en voie professionnelle. Donc c'est un bilan vraiment très mitigé pour les élèves qui redoublent la troisième, c'est-à-dire qu'il y en a malgré tout pas mal qui arrivent à entrer en seconde générale et technologique, mais pour des résultats qui sont bien plus décevants si on parle en termes de sélectivité des filières. Alors évidemment, je ne suis pas là pour faire le classement des filières, mais malgré tout, la première S, c'est la voie la plus sélective. Les voies générales sont plus sélectives que les voies technologiques, et donc elles sont moins accessibles pour les élèves qui ont redoublé la classe de 3e. Alors, que dire des secondes générales et technologiques? Donc des élèves qui redoublent la classe de seconde et générale technologique. Donc là, je change d'échantillon, je prends des élèves qui n'ont pas du tout redoublé au collège, qui sont arrivés en seconde générale et technologique sans redoubler. Alors, c'est des élèves où malheureusement on n'a pas encore assez de recul pour vraiment faire une analyse très approfondie, mais on a quand même essayé de regarder les élèves qui arrivent en fin de seconde générale et technologique et qui font leur vœu d'orientation pour entrer en première ou pour redoubler. Donc ce qu'on voit ici, si on prend la première et la dernière colonne encore une fois, ça veut dire par exemple que 37% des élèves demandent une première S, 21% demandent une première ES, etc. Et en fait ces chiffres-là, donc les chiffres des vœux, sont encore une fois assez proches des chiffres de l'orientation réelle, c'est-à-dire qu'il y a une assez bonne adéquation entre les vœux formulés par les familles et l'orientation effective des élèves. Par exemple, vous voyez que 88% des élèves qui ont demandé une première S obtiennent bien une première S. Concernant le redoublement, donc le redoublement, ça concerne à peu près 10% des élèves. Ces élèves-là, alors je vais rentrer dans le détail. Donc là, je regarde les élèves qui ont redoublé la seconde générale technologique. Donc on en a à peu près, si je compte rapidement, ça fait près de 40% qui demandaient une première générale. Donc c'est-à-dire que j'en avais 13% qui demandaient une première S, 18% qui demandaient une première ES, et 9% qui demandaient une première L. On en avait 23% qui demandaient une première technologique, et on en a 20% qui demandaient d'emblée le redoublement, encore une fois. D'accord, donc c'est le même chiffre que pour la troisième, on a 20% d'élèves qui redoublent, on va dire par choix ou alors en tout cas par accord anticipé avec l'équipe pédagogique, dans le but probablement d'obtenir la filière qu'on n'a pas voulu leur accorder la première année. Donc, quand on regarde ce qui se passe pour ces élèves-là une fois qu'ils ont redoublé, on voit que les taux d'accès dans la filière qu'ils avaient demandé initialement sont plus faibles qu'en troisième. C'est-à-dire que je vous avais montré qu'en troisième, quand on redouble sa troisième, beaucoup d'élèves arrivent malgré tout à avoir accès à la seconde générale technologique, par exemple, c'était de l'ordre de 2/3 des élèves. Ici, on est plutôt autour de 50%, voire un peu moins, pour la première générale. Il y a assez peu d'élèves qui, après redoublement de la seconde générale technologique, accèdent aux filières de première générale. C'est un petit peu plus élevé pour la première technologique, on est à 63%. Et il reste encore pas mal d'élèves qui, après redoublement de la seconde générale technologique, sont réorientés vers la voie professionnelle, ça concerne 10% des élèves, et très très peu par contre d'élèves qui redoublent une deuxième fois la seconde générale technologique. Donc pour conclure, je pense que ce qu'il faut retenir de ces chiffres de manière générale, c'est que le redoublement, c'est une question très complexe en termes de quand on veut s'intéresser à son utilité. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai montré, c'est qu'on a des élèves qui ont l'air de profiter du redoublement, qui, après un redoublement, accèdent à la filière qu'ils avaient souhaité obtenir, et inversement, des élèves qui semblent avoir perdu une année, qui n'obtiennent pas mieux que ce qu'ils avaient demandé, ou qui sortent complètement du système scolaire après un redoublement. Donc, il faut évidemment traiter cette question avec beaucoup de prudence, puisque le public bénéficiaire de cette mesure de politique publique est très divers, et donc il faut adapter évidemment la situation en fonction de ces caractéristiques. Merci.